René Pujol, Le soleil noir, la source providentielle. Monsieur Sinécarmieux mâchonnait des cailloux. De la gorge du cheval aveugle s'échappait un râle monotone. L'ombre était pesante. Nous avions soif depuis des heures et des heures. Nous ne pouvions plus manger. Nous attendions un miracle ou la délivrance de la mort. Nous préférions demeurer dans l'obscurité car nos visages nous faisaient peur. Des jours avaient passé. Je souffrais depuis plus longtemps que les autres car j'avais donné ma dernière goutte de vin à ma fiancée. Jeanne ne se plaignait pas, mais sa mère geignait pour deux. Quant à M. Sternbald, il disait parfois « Que faire ?» En vain, j'essayais d'oublier notre sort. Je n'avais qu'une pensée, qu'une envie. Boire. Boire. Vider d'une lampée un verre d'eau cristalline. Boire. Faire jaillir le jet impétueux d'un siphon dans un verre de vermouth. Boire. Verser le vin vieux, le vin de fradinote couleur de brique, moelleux comme de l'huile, dans un verre en forme de tulipe. Boire des verres, des bouteilles, des ruisseaux jaseurs. Je délirais un peu. En compagnie de M. Sinécarmieux, j'avais exploré la carrière de fond en comble dans un rayon d'un kilomètre. Les galeries se ramifiaient à l'infini, montaient, descendaient, se coupaient. Mais les parois étaient immuablement sèches. Nul filet d'eau ne serpentait dans la poussière blanchâtre. Nous n'avions rencontré ni Fradinote, ni les étrangers. Rien d'étonnant à cela, la carrière s'étendait très loin du côté du Rigalet. Elle trouait la chaîne des collines comme une immense fourmilière. J'avais des bougies et des allumettes dans ma poche. Je pris 4 bouteilles que je roulai dans un lambeau de couverture et je partis. On m'entendit, mais nul ne me demanda où j'allais. Je n'allumai ma bougie que lorsque je fus dans la galerie Jeanne. Il y faisait une chaleur lourde, accablante. J'étais faible, mais résolue. Je voulais boire ou mourir. Je m'engageai dans un boyau tortueux, si bas que j'étais obligée de marcher pliée en deux. Des éboulements s'étaient produits. Une terre noire avait glissé par les crevasses de la pierre salpêtreuse. Je ramassai une pincée de cette terre. Elle était sèche. Pas d'eau. Toujours pas d'eau. Le boyau était long. Il aboutissait à un autre boyau qui descendait avec une pente de 45 degrés. Aussi, je me laissai glisser et je parvins à une excavation haute et large, au plafond cintré comme une coupole de four. Je me glissai par une fente et me trouvai dans une nouvelle galerie. Il me parut qu'une odeur de moisissure flottait. Le sol était effectivement un peu humide. Si peu. Cela me donna cependant un regain d'énergie. Mais les galeries se succédaient, changeant de direction tous les 10 mètres, de sorte qu'il m'était difficile de m'orienter. Ma dernière bougie diminuait. Quand je m'en aperçus, elle n'avait plus que quelques centimètres. Il était impossible qu'elle durât assez longtemps pour me permettre de regagner notre réduit. Or, l'obscurité, c'était la mort quasi certaine. Cependant, je n'avais pas peur. Je souffrais trop. Je bifurquais le plus fréquemment possible. Je rendais le dédale inextricable. Je ne savais plus si je cherchais une source ou une tombe. Cette course prolongée, désespérée, épuisa mes faibles forces. Ma bougie roula à terre et s'éteignit. Les bouteilles s'échappèrent de mes mains et j'entendis un fracas de verres brisés. Je m'accroupis, résigné à tout. Et je perdis connaissance. Il est probable que mon évanouissement fut court. En revenant à moi, je rassemblai péniblement mes idées. J'avais la conviction tranquille que j'étais perdue. Une seule chose me désespérait. Expirer loin de ma fiancée. Je n'étais plus qu'un petit enfant, très humble devant le mystère définitif. Tout à coup, il me sembla que j'avais frais dans le dos, entre les épaules. La sensation était agréable. Cette fraîcheur augmentait, descendait, me baignait délicieusement. Je tâtais la paroi. Elle suintait. De l'eau. Je récupérais mes forces d'un coup. Fébrilement, je cherchais mes allumettes. La lueur du soufre, grésillant, moira la pierre. L'eau coulait, goutte à goutte, le long de la muraille. Ma bougie avait roulé à quelques pas. Je l'allumai en tremblant et la posai sur un caillou plat. De l'eau. J'avais de l'eau. Elle filtrait imperceptiblement, ne formant ni ruisseau ni flaque, et se perdait entre les pierres. Mais c'était de l'eau. Je collai mes lèvres à la paroi. J'aspirais une gorgée de boue. J'avais de l'eau et je ne pouvais pas boire. Pour recouvrer mon calme, je me promenais de long en large, m'étreignant les tempes comme pour extraire une idée de ma tête. Puis, je me plantai devant le semblant de source, hypnotisé par cette eau salvatrice. Une inspiration me vint. Avec mes ongles, je creusai une petite excavation dans la roche que l'humidité avait rendue spongieuse. Ensuite, avec une poignée de terre, je fabriquai une sorte de bec. Au bout de ce bec, une goutte se forma. Une autre encore, une quatrième. Une bouteille s'était cassée, mais il m'en restait trois. J'en plaçai une sous les gouttes qui tombaient. Avec une patience incroyable, j'attendis, comptant les gouttes, les savourant du regard. Quand il y eut un peu d'eau au fond de la bouteille, je la bus. Je recommençai 2 fois, 10 fois, insatiable. Et ce n'est qu'après avoir à demi éteint le brasier de mon estomac que je songeais à ceux qui agonisaient ailleurs. J'eusse éprouvé un véritable remords de boire davantage. Je replaçai la bouteille, j'éteignis la bougie. Je n'avais plus ni le droit, ni le désir de mourir. Combien le remplissage des 3 bouteilles me prit-il de temps? Je ne sais. Quand j'eus fini, je songeai au retour. Je n'avais plus que pour une demi-heure de bougie. Je chassai le doute et l'appréhension de mon esprit, et je partis. Au bout de la galerie, je fis une croix au mur pour marquer la place, et je me demandai s'il fallait tourner à gauche ou à droite. J'optai pour la gauche, je courus comme un fou, j'appelai si fort que je m'enrouai. Je pivotai dans tous les sens, et je me retrouvai soudain devant la source où j'étais arrivé, par l'autre extrémité du couloir. Alors je m'affalai, et je pleurai en silence. La bougie crépita, lança un éclair et s'éteignit. Les ténèbres m'emprisonnaient, cependant je repartis. J'avais encore 30aine d'allumettes. J'en fis craquer une à la bifurcation. Il ne me resta bientôt plus que 3. J'avançais avec rage, mais pas trop vite, pour ne pas briser mes précieuses bouteilles. Ma blessure au genou me faisait toujours souffrir. Ma jambe était lourde et engourdie. Je tâtais les murs de ma main libre et je marchais, je marchais, je marchais. Enfin, mon pied heurta quelque chose de dur, qui rendit un léger son métallique. Je me baissai. J'avais trébuché contre les rails de la galerie centrale. Jamais la Providence ne fut remerciée avec plus de ferveur. 10 minutes après, j'étais dans notre caverne. Le cheval ronronnait lugubrement dans l'obscurité. Un faible soupir s'exhala. Une angoisse me serra le cœur. Je fis de la lumière. Madame Sternebal était assise, soutenant sur ses genoux la tête inerte de Jeanne. Monsieur Sternebal et Monsieur Sinécarmieux étaient détendus nez à nez sur la paille. « J'ai de l'eau !» m'écriai-je triomphalement. Cette phrase leur rendit subitement la vie. Je donnai une bouteille à Jeanne, une autre à sa mère, la troisième aux hommes. « Après vous, balbutia Monsieur Sinécarmieux. »« Non, monsieur, » dit Monsieur Sternebal, « c'est vous l'invité. » Il buvait religieusement, avec une espèce d'onction, et leurs traits se détendaient. L'hallucination disparaissait de leurs pupilles. Je les suppliais de se modérer, de se désaltérer prudemment. Ils m'écoutèrent à regret. Jeanne pensa au cheval qui, lui, n'avait pas encore bu. J'acceptai de retourner à la source avec l'astronome. Nous groupâmes tous nos flacons que nous rangeâmes dans un grand seau de plâtrier. En entendant sonner l'anse sur le fer, le cheval hennit sourdement. « Tu vas boire bientôt, » lui dit avec amitié Madame Sternebal. « Sois patient, ces messieurs vont à la fontaine. » Monsieur Sinécarmieux, qui avait retrouvé sa faconde ordinaire, me raconta que, pendant mon absence, il était allé jusqu'à l'orifice de la carrière. Je me suis traînée en haut de la galerie Amélie. Quelle étuve ! Je voulais me suicider, mais je n'en avais pas la force. Je me suis cramponnée au sol, assez loin du trou. Je cuisais, je rissolais. Il faisait nuit dehors, mais l'ombre s'éclaboussait de reflets rouges. Les arbres brûlaient, fit M. Sternebal. Ils devaient brûler, plantés comme des torches au milieu de la campagne grillée. Les matières solides et liquides se sont échauffées plus que l'air, qui se laisse traverser facilement, et ne conserve qu'une faible partie de la chaleur. L'eau a dû dégager des flots de vapeur. Il a plu ou il pleuvra de l'eau bouillante. Et cependant, si quelque chose peut sauver la terre, c'est l'eau. Le soleil se lassera peut-être avant d'avoir vidé les océans. Depuis que nous sommes enfermés, la température ne s'est pas accrue trop rapidement à cause de l'évaporation intense. Nous sommes les témoins impuissants d'une lutte monstrueuse entre les éléments. Son rire ressemblait à un grincement de poulet de puits. Partons-nous vers la source merveilleuse, monsieur Lanteneau. Quand vous voudrez, monsieur Sinécarmieux. Soudain, je reculai. Le spectre de Fradinote se dressait sur le seuil de la caverne. C'était bien un spectre, livide, décharné, la peau plaquée sur le squelette, les yeux flamboyants et terribles. « Donnez-moi à manger, » dit le spectre d'une voix rauque. Nul ne bougea. Monsieur Sternebal était assis sur la caisse démantelée qui renfermait nos maigres réserves. « Donnez-moi à manger, » répéta Fradinote. M. Sinécarmieux alla se placer devant lui. « Vous êtes l'homme à la barrique » fit-il. « Nous ne pouvons rien pour vous. Je vois que vous êtes en piètre état, mais nous ne nous attendrissons pas. Nous n'avons pas une miette à vous donner. Vous avez des vivres. Donnez-moi à manger. » L'astronome ajouta l'index en signe de refus. Votre assistant s'est déplacé, dit-il. Monsieur Dantonneau est aussi pauvre que vous. Il est assez bon pour me tolérer et je ne suis qu'un intrus. Je me ferai donc hacher pour lui. Je tiens à ce qu'il le sache. Donnez-moi à manger, dit encore Fradinotte. Non, répliqua avec une fermeté implacable l'astronome. On pourrait peut-être, commençai-je. Ah, non, non, firent sévèrement M. Sternbald et M. Sinécarmieux. Fradinotte tomba à genoux, les bras tendus vers moi. Monsieur Dantonneau, à manger, rien qu'une bouchée. Donnez-nous à boire, répliqua soudain M. Sinécarmieux. Le vieux vigneron eut un geste de révolte. Jamais. Et il ajouta doucereusement, la futaille est défoncée, défoncée. Tu mens, lui dit M. Sinécarmieux, donnant, donnant. Tu veux manger, nous voulons boire. Donne-nous du vin, nous te donnerons des harengs. Puisque je vous jure que la futaille est défoncée. Je n'avais plus de pitié. L'avarice de ce malheureux me scandalisait. Madame Sternbald proféra aigrement 2 litres de vin pour un hareng. Vous êtes des bourreaux, clama Fradinotte. Dieu me vengera, car vous mourrez plutôt que moi. Vous mourrez de soif. Et moi, je mangerai. Je vous mangerai. Ah, vous refusez de me donner à manger. Bourreau. Va-t'en, intima M. Sinécarmieux. Pas avant de t'avoir craché à la face. Donne-nous du vin ou des campes. Tiens, en voilà du vin. M. Sinécarmieux reçut un horion qui, instantanément, lui tuméfia l'œil droit. Il riposta de son mieux, mais il n'était pas de force. Fradinotte, au comble de la rage, le renversa, l'écrasant de ses genoux, et le prit à la gorge. Hébétés, nous regardions. M. Sinécarmieux s'agitait avec frénésie, labourait de ses griffes la face de Fradinotte. Mais celui-ci serrait, avec une force incroyable. Madame Sternbald et sa fille criaient. Monsieur Sternbald protégeait toujours la caisse. Je m'approchai vivement pour délivrer Monsieur Sinécarmieux. Comme je me penchais, le vigneron me décocha un tel coup de tête que le sang me jaillit du nez. Alors, je saisis une bouteille par le goulot et je frappai une seule fois. Fradinotte lâcha prise et s'étreignit le front à deux mains. Il ouvrit la bouche pour crier une injure. Puis il s'enfuit à grandes enjambées.